votre cœur jusqu'à l'intérieur. Non, hein, faut pas qu'il en soit ainsi. Nous allons lire un texte de l'Évangile, donc, je vous propose, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1er, ou même au verset 4 plutôt, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 4, je vais reprendre un texte que notre frère Bruno Gauthier a déjà utilisé la semaine passée, je ne sais plus si c'était à la réunion de jeunesse ou à une autre réunion. Voici ce qui est dit, Évangile de Jean, chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il s'agit de Jésus bien sûr, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juive me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. » Il fallait qu'il passe par la Samarie. C'était un impératif. Et j'ai remarqué ceci, c'est que généralement, on n'aime pas trop qu'on nous dise « il faut ». Hein ? Parce qu'on ressent cela comme une contrainte, comme une obligation. Pourtant, c'est souvent nécessaire. Par exemple, la mère de famille dira à son enfant « il faut que tu ranges ta chambre ». Le père de famille, peut-être lui, dira à son fils ou sa fille « il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir plus tard une bonne situation ». Plus sérieusement encore, plus gravement, le médecin peut dire à un patient, il faut que vous subissiez cette opération chirurgicale qui vous sauvera la vie. Et si dans la vie courante, il y a des « il faut », il y a des impératifs qui ne sont pas toujours agréables à entendre, mais qui sont bons à appliquer, Dieu aussi a ses « il faut ». Et dans le texte qui nous occupe, là, eh bien, il est dit qu'il fallait, il a fallu que Jésus passe par la Samarie. Pourquoi ? Eh bien, parce que, voyez, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui connaît notre passé, notre présent, notre avenir, savait que là-bas, dans ce petit village perdu de la contrée de la Samarie, il y avait une femme. Une femme qui était, comment dire, assoiffée de véritable amour. La preuve en est que la suite du texte nous dit qu'elle avait vécu 5 mariages consécutifs, qui chacun d'entre eux s'était terminé par un lamentable échec. Elle vivait avec un sixième homme qui n'était pas son mari. Elle vivait maritalement, ce qui prouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et voyez, cette femme, malgré ses aventures sentimentales multipliées, n'avait pas trouvé ce qui vraiment pouvait satisfaire son cœur. Et elle était toujours à la recherche, on pourrait dire toujours assoiffée, de connaître, de rencontrer le véritable amour. J'aimerais vous dire que le véritable amour, il n'y a que Dieu qui puisse nous le communiquer. Parce que la Bible dit que Dieu est amour, il en est la source authentique et véritable. Et voyez, ce « il faut », « il fallait que Jésus passe par la Samarie », ça, c'est le « il faut » de la providence divine. Qu'est-ce que c'est que la providence divine ? La providence divine, c'est le fait que Dieu dirige les événements, les circonstances de notre vie à chacun, en vue de l'accomplissement de ses plans, de sa volonté et de ses projets. Et à l'égard de cette femme dont nous sommes en train de parler, dont ce texte nous parle, il y avait un rendez-vous divin pour cette femme, car Dieu avait le projet de la sauver. Alléluia. Dieu l'avait vue là-bas, dans son coin perdu de Samarie, avec sa détresse intérieure, avec ses questions, avec son mal-être, et il avait, dans son dessein éternel, formé le projet de la sauver, le projet de l'arracher à son péché, à son désordre moral, à son angoisse, à son tourment, à son désespoir, à sa solitude. Et ce qui était vrai pour elle, c'est aussi vrai pour nous. Alléluia. Parce que la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et je vous pose cette question tout de go cet après-midi. Êtes-vous sauvés? C'est ça l'important. Ne me répondez pas, mais j'ai ma religion. Ne me répondez pas, vous savez, depuis mon enfance, j'ai appris les éléments fondamentaux de la religion chrétienne. Ne me répondez pas, lorsque j'étais enfant, eh bien, j'ai reçu les sacrements, j'ai été baptisé lorsque j'étais un nouveau-né. Non, je vous demande, êtes-vous sauvés? Je me souviens du témoignage de cet homme qui était de religion protestante, et on lui avait appris, ce qui est une excellente chose d'ailleurs, que chaque jour il fallait lire la Bible. Alors depuis sa plus tendre enfance, et à l'époque il était un jeune homme de 20 ans et quelques, depuis sa plus tendre enfance, chaque jour il s'appliquait à lire la Bible, il n'y comprenait rien. Mais enfin, il s'astreignait à cette lecture quotidienne. Et puis un jour un prédicateur, alors que ce garçon était fort malade, par ailleurs est venu le visiter, et cet homme de Dieu lui a posé la question que je vous pose cet après-midi. « Jeune homme, êtes-vous sauvé ?» Et voyez, tout à coup, ses yeux se sont ouverts. Il a réalisé qu'au fond, eh bien oui, il lisait la Bible, mais le Dieu de la Bible, il ne le connaissait pas. Et il n'avait aucune assurance quant à son éternité, quant à son avenir éternel. « Êtes-vous sauvé ? Avez-vous fait la paix avec Dieu ? Vous êtes-vous repenti de vos péchés ? Avez-vous dans votre existence réglé ce qu'il y avait à régler pour que vous soyez eh bien, en harmonie avec la volonté de Dieu ? Avez-vous reçu par la foi l'assurance qu'en Christ était pour vous le pardon de vos péchés ? C'est ce que Dieu veut, car il vous aime, il veut vous sauver. Et c'est parce qu'il peut vous sauver que vous êtes là aujourd'hui. Alléluia. Ne pensez pas que vous y êtes simplement parce que vous l'avez bien voulu, non. Ça, tout comme pour cette femme, c'est le résultat de la providence divine, voyez. De toute éternité, mais oui, de toute éternité, Dieu avait préparé ces moments. Dieu avait prévu, n'est-ce pas, dans sa sagesse infinie, que vous seriez là, aujourd'hui, pour entendre son message, sa parole, son évangile, et qu'au travers de ce message, vous pourriez recevoir, si tout au moins vous ouvrez votre cœur, sa grâce et son salut. Ça, c'est le premier « il faut ». Il fallait qu'il passe par la Samarie. Le « il faut » de la providence divine. Eh bien, il fallait, rapportons ce fait à ce qui nous concerne aujourd'hui, il fallait que vous soyez là aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu, car il vous aime et il a le projet de vous sauver. Amen. On va aller un petit peu plus loin, si vous voulez. On va lire cette fois dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 42, un autre « il faut ». Luc, chapitre 4, verset 42, voici ce qui est écrit dans ce passage. Voilà, Luc, chapitre 4, verset 42. « Dès que le jour parut, il sortit, il s'avit encore de Jésus, et alla dans le lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quitte point, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Voilà, Jésus, eh bien, la veille au soir, a tenu une réunion mémorable, n'est-ce pas ? Il a annoncé l'évangile, il a prié pour les malades, imposant les mains à chacun d'eux, et chacun fut guéri. Des démons ont été chassés, des hommes et des femmes qui étaient en proie aux puissances démoniaques ont été libérés. Et il y a eu beaucoup d'effervescence dans cette ville parce que c'était produit de grandes choses. Alors, et on le comprend, les gens voulaient le retenir, le garder, rien que pour eux. Mais Jésus a dit ceci, non, 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 au petit matin, il s'est éloigné dans un lieu désert, il a rechargé les accumulateurs, rechargé la batterie dans la prière. Et lorsque, eh bien, les gens sont venus vers lui, il leur a dit, il faut que j'annonce aux autres villes la prédication de la parole de Dieu. Voyez, il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Le désir de Dieu, nous l'avons dit, c'est le salut des pécheurs. Alléluia. Et ça nous concerne tous, puisque pécheurs nous le sommes tous. Et le moyen que Dieu a prévu, a utilisé pour assurer notre salut, c'est la prédication de l'Évangile. Un texte de l'Écriture nous dit en effet, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication n'a pas pour but de gargariser notre esprit de quelques connaissances théologiques, non. Le but de la prédication, c'est de nous amener à la vraie foi. Parce que c'est par le moyen de la foi que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Voyez-vous ? L'évangile de Jean nous dira que ces choses contenues dans la Bible ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et le but de la prédication, c'est ça, c'est de susciter la foi. Béni soit Dieu. Et mes amis, ça marche. Alléluia. Parce que Dieu crée la foi dans les cœurs. Vous savez, on ne peut pas croire ce qu'on ne connaît pas. Vous savez ça ? On ne peut pas croire ce qu'on ne connaît pas. Et le but de la prédication, c'est de nous faire sortir de notre ignorance quant à ce qui concerne Dieu, sa volonté, sa parole, ses exigences, son amour, pour que sortant de notre ignorance, eh bien, nous puissions découvrir et concevoir dans notre cœur la vraie foi. C'est pourquoi vous avez bien fait de venir écouter cet après-midi l'Évangile, parce que si vous persistez dans cette attitude, quelque chose va se passer, Dieu va susciter la foi dans votre cœur. Lorsque nous étions à Carcassonne, il y avait une jeune femme qui a commencé à suivre nos réunions parce qu'elle avait constaté les changements qui s'étaient opérés dans la vie de sa voisine qui elle-même s'était convertie, voyez. Elle avait été témoin de ce que cette femme, qui avait toutes sortes de problèmes, tout à coup était devenue rayonnante. Alors elle l'avait invitée aux réunions, elle était venue intriguée, se disant, mais il doit bien y avoir quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon amie, ma voisine, change ainsi de vie radicalement? Et cette jeune femme qui est venue écouter l'Évangile avait été élevée dans un foyer athée. Vous voyez, pour elle, Dieu n'existait pas. Et elle est venue aux réunions, dans cet état d'esprit. Dieu n'existe pas. Et puis, elle a assisté aux réunions, et puis elle écoutait la prédication, et elle se disait en elle-même, mais vraiment, ces hommes racontent n'importe quoi. Et ce qu'il y a de plus terrible, se disait-elle, c'est qu'ils ont l'air d'y croire. C'est qu'ils ont l'air de prendre ça au sérieux. Vous voyez, c'est le raisonnement. Des fois, les gens ont sorti la réunion, ils vous saluent, monsieur le prédicateur, on fait des courbettes. Mais on ne sait pas ce qui bout dans leur marmite. Hein. Et elle, dans sa marmite à elle, il n'y avait pas de bonnes choses qui bouillaient, puisqu'elle contestait la parole de Dieu. Mais chaque fois, à l'heure de la réunion, il y avait une espèce de petit signal qui s'allumait là dans son cœur. Il faut que tu ailles écouter la prédication de l'Évangile. Et elle venait toujours, et pendant un bon moment, ça a duré cette affaire, dans ce même sentiment de contradiction, d'opposition. Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et peu à peu, vous voyez, peu à peu, son incrédulité a fondu comme la neige au soleil. Et la foi, la vraie foi, est venue dans son cœur Et ces choses qu'elle contestait, qu'elle tournait en ridicule dans un premier temps, elle les a reçues de tout son cœur. Et elle aussi a fini, c'est une belle fin, par se convertir. Alléluia. Ça, c'est le « il faut ». Il faut que l'Évangile soit annoncé. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Nous aimerions cet après-midi, et Dieu fasse qu'un jour il en soit ainsi, n'est-ce pas, que toutes les chaises soient garnies. Ça n'est pas le cas. Mais s'il n'y avait dans ce lieu cet après-midi qu'une seule personne qui ait besoin de recevoir la grâce de Dieu, eh bien notre réunion ne serait pas inutile. Parce qu'il faut que l'Évangile soit annoncé. Nous allons encore un peu plus loin, voulez-vous, et nous lirons cette fois dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 25, quelques textes de l'Écriture, Luc chapitre 24, verset 25. Voici ce qui est dit. Alors, Luc chapitre 24, verset 25, « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. » Nous sommes là après la résurrection de Jésus. Seulement, les disciples de Jésus ne savaient pas encore que Jésus était ressuscité. Et la Bible nous dit dans ce texte, vous lirez la totalité du chapitre si vous le voulez, que deux de ses disciples, en l'occurrence, étaient en chemin pour aller vers un petit village qui s'appelait Emmaüs. Et ils étaient tout tristes parce que celui en qui ils avaient tant espéré, Jésus de Nazareth, ils l'avaient vu être arrêté par les autorités, condamné à mort, et finalement cloué sur une croix et mourir comme un brigand qu'il n'était pas. Alors ils étaient désabusés, attristés, déphasés, perturbés, tout ce que vous voulez, quoi. Et puis voici qu'un inconnu s'est approché d'eux. Cet inconnu, en fait, c'était Jésus ressuscité, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et la conversation s'est engagée. Alors ils ont fait part à cet inconnu de leur désarroi intérieur. Et voici que Jésus leur dira ce que nous voulons de lire, mais homme sans intelligence, ne fallait-il pas... Mais oui, il le fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, c'est-à-dire dans sa résurrection. Pour que nous soyons sauvés, non seulement il faut que la providence divine organise les événements et les circonstances de notre vie, nous l'avons vu, non seulement pour que nous soyons sauvés, il faut que l'Évangile soit annoncé, mais pour que nous soyons sauvés également, il a fallu que Christ donne sa vie sur la croix. Que Christ donne sa vie sur la croix. Le salut que Dieu nous propose est réalisé, est accompli en Jésus-Christ au travers de sa mort. Qu'est-ce que la mort de Jésus ? Ça n'est pas simplement, comment dire, un témoignage émouvant de son altruisme, de son dévouement, c'est beaucoup plus que cela. La mort de Jésus sur la croix, c'est le sacrifice qui a été offert pour que nos péchés soient expiés, c'est-à-dire qu'ils soient couverts, qu'ils soient enlevés, qu'ils soient effacés, qu'ils soient purifiés, nos péchés, qu'ils soient pardonnés. Il se peut, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, que sur votre conscience pèsent des choses lourdes. Il se peut que, n'est-ce pas, le poids de vos péchés passés ou de vos péchés présents pèse lourdement sur votre cœur. Il se peut que vous soyez tourmenté par le remords. Mais moi, je vous dis cet après-midi que Christ mourant sur la croix a tout accompli pour que par lui vous receviez de ces péchés en question le plein pardon. Alléluia. Et qu'ainsi votre conscience soit libérée, que votre conscience soit dégagée. Mais non seulement pour que vos péchés soient pardonnés, effacés, il a fallu que Christ meure, Mais il a fallu qu'il ressuscite et qu'il soit glorifié. C'est la preuve que le sacrifice a été accepté et que pour ceux qui croient que Jésus a fait cela pour eux, le pardon devient possible. Amen. Le pardon devient possible. Mon ami, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu pardonne en Jésus-Christ tous les péchés de tous les pécheurs qui croient en lui. Amen. Qui se confient dans sa grâce. Il ne s'agit pas de réaliser quelque exploit particulier. Il ne s'agit pas pour ce faire d'accomplir quelque œuvre méritoire qui nous vaudrait la miséricorde de Dieu en retour. Mais il s'agit de croire. Il s'agit de se confier dans l'œuvre de Christ accomplie au calvaire, réalisant que parce que lui a souffert, eh bien je n'ai plus à souffrir. Puisque lui a porté le poids de mes fautes, je n'ai plus à le porter. Et si je le lui confesse, il me fait grâce et il me fait miséricorde. Alléluia. Ça c'est le « il faut », vous voyez. Le « il faut » de l'œuvre de Jésus. Il fallait qu'il meure et il fallait qu'il ressuscite pour qu'au travers de sa mort et de sa résurrection, le salut deviennent accessibles même au pire des pécheurs. Et enfin, nous terminerons par un dernier passage, un dernier il faut. C'est dans l'évangile de Jean, cette fois, au chapitre 3 et au verset 7 que nous le trouverons. Voici ce qui est écrit. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 7. Il faut, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Pour que nous soyons sauvés, il faut qu'il y ait la providence divine, il faut que l'Évangile soit annoncé, il a fallu que Christ meure et qu'il ressuscite, mais pour que nous soyons sauvés aussi, il faut que nous naissions de nouveau. Puisque dans le passage que nous venons de lire, un petit peu plus loin, il est dit que si nous naissons de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Mes amis, pour aller au ciel, il faut vivre cette expérience spirituelle fondamentale que la Bible appelle la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, la nouvelle naissance? Qu'est-ce que c'est que ce « il faut que vous naissiez de nouveau » Ça signifie, voyez-vous, que la vraie foi suppose un changement de style de vie radical et définitif. La foi, ce n'est pas une petite émotion religieuse passagère. Comme si on disait, bien tiens, aujourd'hui j'ai rien à faire, dimanche après-midi, je vais faire un petit tour à la salle évangélique, ça me fera certainement du bien. Non, la foi, la vraie foi, c'est ça, c'est naître de nouveau. C'est un changement de style de vie, de comportement, d'attitude radicale par rapport à celui que nous avons eu jusque-là. Ça commence par l'intérieur, amen, par le cœur. Souvent, la religion, les religions, quelles qu'elles soient, soignent les apparences, l'extérieur, la forme, ce qu'on voit, ce qui est visible. Et mes amis, Dieu commence toujours par le plus important, par le dedans. Et c'est le dedans de notre personne humaine qui doit être changé, transformé. Et c'est Dieu qui le fait en nous par son esprit. Il peut faire en moi ce que moi je ne peux pas faire, de changer de l'intérieur. Vous savez qu'on peut changer beaucoup de choses. On peut changer de maison, on peut changer de voiture, on peut changer de pays, on peut changer même de nationalité. On peut même arriver à changer de couleur de peau, mais si. On peut changer de visage par la chirurgie esthétique. On peut changer un tas de choses. Mais on ne peut pas changer notre cœur. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et pour qu'il puisse le faire, pour qu'il le fasse effectivement, il y a notre part et sa part. Je ne peux pas faire ce qu'il est seul en mesure de réaliser, mais il ne fera pas à ma place ce que je dois faire. Ce que je dois faire, ça s'appelle dans la Bible la conversion, la repentance. Littéralement, ça signifie un changement de mentalité. Voilà, j'ouvre les yeux sur ce que je suis réellement, c'est-à-dire un pécheur. Oui, j'ai offensé Dieu. Oui, j'ai meurtri son cœur de père. Oui, j'ai délibérément désobéi à ses commandements, à sa parole, à sa volonté. Oui, j'ai fait le contraire de ce qu'il voulait. Cela, je le lui confesse. Je m'en humilie devant lui. Je lui demande pardon et je désire m'engager dans une autre direction. Ça, c'est ma part. Et lorsque je fais cette part-là, Dieu fait la sienne. Et il vient par son esprit produire ce changement intérieur dont nous parlons et qui s'appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Il suscite en moi des sentiments nouveaux, des attitudes intérieures nouvelles, des formes de pensée nouvelles, un comportement nouveau. Ce que j'aimais autrefois, je ne l'aime plus. Le mal dans lequel je me complaisais, maintenant j'apprends à le fuir, à le rejeter. Ces mauvaises habitudes, ces addictions peut-être qui me collaient à la peau, c'était plus fort que moi. J'en suis définitivement débarrassé. C'est son œuvre. Je suis né de nouveau. Eh bien, mes amis, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est impératif pour que vous puissiez être sauvés. Alors, voyez, nous avons là quatre impératifs, quatre il faut. La providence divine pour que vous soyez sauvés. L'écoute de la prédication de l'Évangile pour que vous soyez sauvés. La mort et la résurrection de Jésus pour que vous soyez sauvés. Et la nécessité de vivre l'expérience de la nouvelle naissance pour que vous soyez sauvés. Engagez-vous dans cette direction. Cet après-midi, eh bien, dites, Seigneur, je ne veux pas en rester là. Mais je veux vraiment qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Puisque dans ta providence, tu m'as conduit dans ce lieu. Puisque dans ta bonté, tu as permis que j'entende ta parole. Puisque dans ton amour pour moi, Père, tu as fait en sorte que ton Fils Jésus-Christ meure sur la croix pour mes péchés et qu'il ressuscite le troisième jour. Puisque tu me dis qu'il faut que je naisse de nouveau, eh bien qu'il en soit ainsi. Je viens à toi comme un pécheur que je suis. Je t'en demande pardon et je te prie par ton esprit de changer mes dispositions intérieures, mon état d'esprit, ma mentalité, mon cœur, mon comportement. Fais-moi naître de nouveau pour que je puisse, par ta grâce et par la foi en Jésus, accéder au salut et il le fera.